C'est l'heure de votre journal, Frédéric Barrère.
Bonjour à tous. Après 30 mois d'absence, on avait presque perdu l'habitude de voir des milliers de coureurs dans les rues de la capitale. Le marathon de Paris fait son grand retour et avec lui, le goût de la vie d'avant. Un nouveau geste inédit en mémoire aux victimes algériennes de la répression dans le sang de la manifestation du 17 octobre 61. Le préfet de police, Patrick Lallemand, a déposé ce matin une gerbe de fleurs au pont Saint-Michel après le communiqué hier d'Emmanuel Macron dénonçant les crimes inexcusable pour la République. Jean-Luc Mélenchon entre officiellement en campagne pour la présidentielle avec un nouveau mouvement, l'Union Populaire, et la même cible, Emmanuel Macron. Dans ce journal également, la journée mondiale du refus de la misère, nous recevrons la présidente d'ATD Quart Monde, Marie-Alette Grard, et également un retour en discothèque ce soir à des fins expérimentales sur les risques de transmission du coronavirus chez les personnes vaccinées. La météo, nuages à l'ouest, soleil à l'est. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Un peu d'air, de soleil et d'effort, mais pas de masque pour débuter ce journal. Le marathon de Paris, après 30 mois d'absence à cause de l'épidémie de coronavirus, nous redonne goût à la vie d'avant. Un peu plus de 30 000 coureurs participent à la course avec enthousiasme, mais avec certaines règles à respecter. Bonjour Adèle Belloumri.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous suivez la course en ce moment. Victoire et record de l'épreuve pour le Kenyan Elisha Roti. Chez les dames, c'est l'Éthiopienne Tigist Memouye qui s'impose. Mais c'est surtout beaucoup de sourires et le plaisir retrouvé en même temps que le marathon.
Oui, depuis un peu plus d'une heure, ça y est, les coureurs franchissent un à un la ligne d'arrivée située avenue Foch. Une course folle de bonheur avec au bout de l'effort le sourire de vivre un moment mémorable. C'est le cas de Pauline, franco-belge. Elle a fini la course en 3h11, son record perso.
Franchement, c'est super. Tout était réuni pour une belle course, la météo idéale. Le public était super chaud. On voit que c'est l'après-Covid et les gens sont hyper heureux d'être là tous ensemble. C'était vraiment une ambiance top.
À chaque sas de départ, il y avait tellement d'envie, d'excitation d'être là, les jambes tremblantes d'impatience. 2 ans après la dernière course à Paris, après une édition 2020 annulée à cause du Covid. Mais pour Philippe, dans le public qui soutient Nicolas venu tout droit de Guadeloupe, cet événement sonne comme un bon retour à la vie normale.
Et c'est vraiment plaisant, après ce qu'on a suivi pendant 2 ans, de vivre ce moment où ça reprend vie et tous ces gens qui vont nous redonner plein de souffle et c'est un nouveau départ. Et c'est important pour tout le monde.
Un public qui se masse maintenant sur l'avenue Foch, qui est noir de monde, alors que les derniers coureurs viennent tout juste de partir des Champs-Élysées il y a quelques minutes, avec une arrivée prévue pour certains vers 18h.
Le marathon de Paris avec Adèle Belloumri, merci. Les prix de l'énergie qui flambent, l'essence toujours plus chère et la reprise de l'inflation, la question du pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations et les candidats à la présidentielle se sont lancés dans une course aux propositions, notamment pour augmenter les salaires. 60% des Français, selon un sondage récent, ont été contraints de réduire le chauffage à la maison. Un Français sur 5 dit avoir souffert du froid. Par ailleurs, on estime à entre 9 et 10 millions le nombre de personnes en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est dans ce contexte et au moment où la campagne présidentielle démarre qu'a lieu aujourd'hui la journée mondiale du refus de la misère. Nous recevrons dans quelques instants la présidente d'ATD Quart Monde. Mais on va d'abord s'intéresser aux difficultés de la vie au quotidien avec notamment la précarité étudiante dont on a beaucoup parlé durant cette période d'épidémie de coronavirus. La précarité étudiante est toujours très forte. Par exemple, hier à Orléans, près de 400 étudiants se sont rendus à une distribution de nourriture et de produits de première nécessité. La première de l'année scolaire. Reportage à Orléans, Cécile Dacosta, France Bleu Orléans.
On est effaré, témoigne Lucille Mollet, présidente de l'association OSEM. Pendant 2 heures, la file d'attente ne désemplit pas.
On vit ça depuis chaque distribution. En fait, quand on compte la file d'attente, il y en a 200. Mais en fait, il y en a 200 à 2 heures. Puis à 2h30, il y a une cinquantaine d'étudiants qui est passée. Et quand on recompte la file d'attente, il y en a toujours 200. Ça nous attriste en fait.
Face à l'affluence, ils ont dû réduire la taille des paniers pour pouvoir servir tout le monde.
C'est-à-dire qu'ils ne repartiront pas avec 1 kilo de pâtes, 1 kilo de riz, 1 kilo de semoule. Ils repartiront avec 1 kilo de quelque chose.
La reprise des distributions, c'est à la fois une bonne nouvelle pour les étudiants qui en ont besoin et le résultat d'un triste constat pour Loubna, étudiante à la fois bénévoles et bénéficiaires.
Quand j'ai reçu le mail, j'ai dit « Ah, la situation ne s'est pas améliorée, donc il faut encore continuer à faire des distributions. » Ça veut dire que les étudiants, ils sont vraiment en galère.
Nolan, lui, vient pour la première fois à une distribution. Sans job, depuis la rentrée, il a du mal à boucler ses fins de mois.
Je suis dans une situation qui est un peu plus difficile par rapport à l'année dernière. J'ai fait un cursus en alternance. Cette année, je n'ai pas la possibilité de faire une alternance. Donc, je suis actuellement en train de chercher un travail aussi pour essayer de m'en sortir, un peu comme tout le monde.
Face à une telle affluence, une nouvelle distribution aura lieu le mois prochain sur le campus d'Orléans.
Bonjour Marie-Alette Grard.
Bonjour Frédéric Barrère.
Vous êtes la présidente d'ATD Carmande et bien sûr mobilisée pour cette journée mondiale du refus de la misère. On vient d'entendre des étudiants, ils font partie des exclus, certains d'entre eux.
Oui, parce que cette crise sanitaire et sociale que nous vivons depuis plus d'un an et demi a terriblement fragilisé ceux qui avaient de petits boulots et a terriblement fragilisé ceux qui vivaient déjà dans la précarité. Et de ce fait, ils se retrouvent dans la grande précarité. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'aller aux distributions alimentaires. C'est quand même hallucinant dans notre pays.
Cet objectif, l'objectif de cette journée du refus de la misère, Marie-Alette Grard, c'est quoi? C'est remettre les droits humains au cœur de notre vie en société?
Oui, c'est tous ensemble refuser l'inacceptable. Refuser que des millions, plus de 9 millions de personnes dans notre pays vivent de manière inacceptable, qu'ils soient laissés sur le bord de la route. C'est se mettre ensemble et c'est prendre le temps de les écouter, de les entendre, ces personnes que l'on n'entend jamais, que l'on montre du doigt éventuellement, que certains politiques montrent du doigt comme s'ils fraudaient, comme s'ils abusaient. Eh bien là, nous voulons les entendre.
Alors la pauvreté, c'est vivre sans avoir le contrôle de sa vie, en perdant le contrôle de sa vie, mais ce n'est pas une fatalité.
Non, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que sans cesse vous devez répondre à tout un tas de questions, de questionnaires, à des dizaines de pages pour tenter d'avoir le RSA et de survivre avec ce RSA. Ce n'est pas une fatalité parce que les gens se mettent debout et décident de militer, de se mettre ensemble pour faire bouger les choses. Ce n'est pas une fatalité parce que les gens veulent retrouver un emploi et que nous sommes nombreux dans la société à nous mettre debout à leur côté pour faire bouger les choses et que chacun, chacune d'entre nous peut faire bouger les choses.
Comment ça? Comment peut-on agir?
Nous pouvons agir déjà par nos regards, par nos manières d'agir dans l'école de nos enfants, de ne pas laisser des enfants de côté, de ne pas laisser des parents qui n'oseraient pas franchir la porte de l'école, dans les emplois que nous occupons, dans les entreprises où nous sommes, que toutes les personnes soient bien accueillies, bien traitées et que ceux qui ont des petits salaires ou des salaires vraiment totalement indécents soient reconnus par les autres. Nos regards, se connaître pour se reconnaître, prendre ce temps-là, nous ne laisserons pas comme cela 9 millions de personnes sur le bord du chemin.
Marie-Alette Grard, vous parliez des politiques qui montrent, qui évoquent la misère, les pauvres, mais vous regrettez, j'imagine, bien évidemment, que cette question ne soit pas assez présente dans le débat de la campagne présidentielle qui s'ouvre.
Elle devrait être au cœur de la campagne présidentielle qui s'ouvre. D'ailleurs, on le voit avec les hausses d'énergie, avec les hausses de toutes ces hausses qui arrivent. Les personnes qui ne sont pas les plus précaires, les gilets jaunes, j'entendais ce matin, reprennent leur vie sur les ronds-points pour dire, pour alerter que ce n'est pas possible. Eh bien, les personnes qui sont très précaires sont aussi encore davantage enfoncées. Alors, il faut que nous réagissions. Nous ne pouvons pas laisser une campagne présidentielle qui ne parle simplement que du rejet de l'autre, comme si nous ne voulions pas la liberté, l'égalité et la fraternité dans notre pays. La fraternité, c'est très important. La fraternité, ça veut dire que nous voulons une société qui n'oublie personne.
Justement, l'égalité, la fraternité, et je pense à l'école. Est-ce que l'école est équitable pour tout le monde? Est-ce que l'école sort les gens les enfants de leur conditions, sous
vous le savez,
pauvreté.
Nous le savons, notre système scolaire est terriblement inégalitaire. C'est-à-dire que dès le plus jeune âge, les enfants de milieux très défavorisés dans notre système scolaire sont orientés vers des filières spécialisées qui, au bout du compte, ne leur permettent pas de se bâtir un avenir, ne leur permettent pas de choisir le métier qu'ils veulent exercer. très souvent, ils sortent du système scolaire avec aucun diplôme, avec rien. Ils sont 100 000 chaque année. 100 000 jeunes à sortir du système scolaire avec rien. C'est terrible. Donc là aussi, nous pouvons agir. Là aussi, nous devons réagir. Nous devons accueillir tous les parents à l'école et nous devons faire que les enseignants soient formés pour pouvoir accueillir tous ces enfants qui vivent des quotidiens si difficiles.
Quel message vous voulez faire passer, Marie-Hélène Grard ? On a besoin d'entendre les plus défavorisés. La société ne peut pas se passer d'eux, de leur voix, de leur expérience ?
Nous ne pouvons pas nous passer d'eux. J'entendais sur votre antenne ce matin un reportage sur le logement social. Eh bien, la rénovation dans le logement social ou la construction de logement social doit être conçue avec les personnes. Sinon, comme le disaient les personnes dans le reportage que vous passiez ce matin sur votre antenne, eh bien, ça ne bouge pas et c'est toujours aussi sale et c'est invivable. Donc, il faut entendre les personnes les plus pauvres.
Marie-Alette Grard, présidente d'ATD Quart-Monde, merci beaucoup. La journée mondiale du refus de la misère, avec plusieurs événements organisés partout en France et à Paris, sur le parvis du Trocadéro, animation, concert et prise de parole au Bousseret, j'imagine, jusqu'à...
Bien entendu, jusqu'à, venez nombreux,
ce soir, jusqu'à 20h. Merci madame. Un geste, encore une fois, inédit en mémoire des victimes algériennes de la répression sanglante de la manifestation du 17 octobre 61. Hier, Emmanuel Macron déclarait que les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République. Et ce matin, sur le pont Saint-Michel, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a déposé une gerbe de fleurs près de la Seine. La sonnerie aux morts a résonné. Une minute de silence a été respectée à la mémoire des morts du 17 octobre 61, précise la préfecture. Cet après-midi, une manifestation est prévue à Paris, à l'appel notamment de la Ligue des droits de l'homme, pour dénoncer un crime d'État. Benjamin Stora, historien et auteur du rapport sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, était ce matin l'invité du 6-9 de France Inter. Il a salué l'avancée, dit-il, que constitue la déclaration hier par communiqué d'Emmanuel Macron.
Pour la première fois, un chef d'État en exercice reconnaît la responsabilité de l'État dans un massacre considéré comme un crime. Le mot est utilisé. C'est la première fois qu'un chef d'État en exercice utilise le mot crime et la colle à la question de l'État et de la République. C'est une avancée. D'autres, évidemment, auraient préféré davantage de justice. Et d'autres, encore plus radicaux, disent qu'il fallait juger les responsables à l'époque, qui étaient au pouvoir, et pourquoi pas le général de Gaulle lui-même. Et là, ça me paraît tout à fait étonnant de considérer qu'il faut aujourd'hui juger le général de Gaulle. Le général de Gaulle a donné des consignes de fermeté, bien sûr, dans la répression de cette manifestation, mais il n'a jamais demandé que l'on tire par balle sur des manifestants algériens. Ça n'existe pas.
Benjamin Stora répondait à Éric Delvaux et Karine Bécard. La politique ce dimanche et l'entrée officielle en campagne pour la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon au parc des expositions de Reims devant 2000 personnes et avec quelques changements. Pour les insoumis, le rouge laisse place à la couleur violette et un nouveau slogan, l'Union populaire, qui est aussi le nouveau nom du mouvement militant de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon veut sonner la mobilisation générale, mobiliser les abstentionnistes avec un candidat pour cible, Emmanuel Macron. Sur place à Reims, Laurence Perron.
Alors il y a bien un petit tacle pour les socialistes, mais c'est François Hollande qui prend.
Ah, 43 annuités, merci qui ? Mon ennemi c'est la finance, François Hollande.
En creux, on lit aussi que l'écologie européenne n'est pas sa tasse de thé, Yannick Jadot si tu l'entends, mais quand Jean-Luc Mélenchon tape sur l'Europe, c'est le président Macron et son programme caché, dit-il, qu'il dénonce.
Aiguisez vos esprits et votre méfiance, parce que l'autre, il a un programme. Mais il le dit à d'autres, à ses amis préférés. Non, je ne suis pas en train de parler des milliardaires qui le financent. Je parle de ses amis à l'Union européenne, à la Commission.
Il conteste la politique étrangère du chef de l'État, réclame la sortie de l'OTAN, la fin de la guerre au Mali, l'instrumentalisation de l'histoire.
Monsieur Macron, respectez la démocratie qui n'est pas un spectacle. Respectez la République qui n'est pas juste une rente mémorielle.
L'Union populaire, le nouveau mouvement, fera campagne sur la sortie du nucléaire, la semaine de 4 jours et la réduction du temps de travail, le retour de l'ISF.
En 4 ans, ça vous aurait donné 300 000 logements sociaux. Ça vous aurait donné 280 000 places de crèche. Ça vous aurait donné la paye de 60 000 enseignants. De 50 hôpitaux. Voilà ce que ces gens nous ont coûté.
Enfin, il invite les siens, les abstentionnistes, les jeunes à la mobilisation.
Les sondages montrent que le deuxième tour est à une portée de petits points.
Il donne rendez-vous en janvier pour un grand meeting et le 20 mars pour une grande marche en hommage à la Commune de Paris.
De nouveaux enlèvements à Haïti, au moins 17 missionnaires chrétiens américains avec leurs familles, dont des enfants, ont été kidnappés hier. Ils étaient en route vers l'aéroport. Bonjour Eric Bigala.
Bonjour.
Les bandes armées des quartiers les plus pauvres de la capitale haïtienne multiplient les enlèvements.
Oui, l'enlèvement des religieux américains avec leurs familles est intervenu à Croix-des-Bouquets, très exactement. C'est un faubourg de l'est de Port-au-Prince, l'une des entrées de la capitale haïtienne, en fait, et un passage obligé pour se rendre à l'aéroport. C'est d'ailleurs vers l'aéroport que se dirigeait le convoi des Américains quand ils ont été interceptés. Croix-des-Bouquets, c'est depuis quelques mois au moins le fief du gang dit 400 Mavozo, dirigé par Lanmo Sanjou, ultra-violent et multipliant attaques et enlèvements. La police haïtienne, qui a bien conduit quelques raids contre 400 Mavozo, n'a qu'une présence symbolique et aléatoire sur le terrain. Le contrôle de ce que les gangs exercent sur les entrées et les sorties de la capitale a d'ailleurs eu un impact négatif sur l'économie même du pays, prévenait au début du mois la représentante spéciale des Nations Unies pour Haïti dans un rapport au Conseil de sécurité. Dans la matinée de samedi, 400 Mavozo a détourné plusieurs véhicules sur les axes routiers qu'il contrôle, enlevant les citoyens américains ainsi qu'un nombre encore indéterminé d'Haïtiens. Les enlèvements contre rançon se comptent en centaines, plus de 600 depuis le début de l'année, et les conditions de sécurité sont tellement dégradées dans les faubourgs de Port-au-Prince que près de 19 000 personnes ont d'ores et déjà préféré évacuer leur maison ces 6 derniers mois, selon un décompte des Nations Unies.
Eric Bigala. Retour sur Terre des acteurs de l'espace. L'équipe russe, une actrice et un réalisateur qui ont passé 12 jours à bord de la Station Spatiale Internationale pour y tourner. Le premier film dans l'espace a atterri ce matin. Le réalisateur puis l'actrice jouant le rôle principal ont été extraits ou aidés pour sortir de la capsule Soyouz. Ce film russe intitulé Le Défi devance le projet américain concurrent avec Tom Cruise. Moscou, Paul Gogo.
Leur retour a été diffusé en direct à la télévision russe. L'actrice Yulia Piresild et le réalisateur Klim Shipenko ont atterri dans les steppes du Kazakhstan ce matin après avoir passé 12 jours dans l'espace. Leur retour sur Terre a été diffusé en direct à la télévision russe. Yulia Piresild, quelques minutes après son retour sur Terre.
C'est très difficile de décrire cette atmosphère quand tu regardes par le hublot et que tu vois la Terre. On aimerait vraiment réussir à transmettre cette atmosphère dans notre film, vu par les yeux d'une personne qui n'est pas professionnelle, car mon personnage n'est pas une professionnelle du cosmos.
L'actrice Yulia Piresild incarnera dans ce film intitulé Le Défi, une chirurgienne envoyée dans l'espace pour sauver la vie d'un cosmonaute. D'un point de vue géopolitique, le pari de la Russie est gagné. Il s'agissait de couper l'herbe sous le pied des États-Unis qui espéraient être les premiers à tourner un film dans l'espace. Moscou, Paul Gogo, France Inter.
Une soirée en discothèque, deux même ce soir, expérimentale, grandeur nature sur les risques de transmission du Covid. Plus de 4000 personnes sont conviées à venir dans deux hauts lieux de la nuit parisienne, la machine de Moulin Rouge et la Bellevilloise. L'opération intitulée Revient la nuit est organisée pour la partie scientifique par l'agence de recherche ANRS maladies infectieuses et elle doit permettre d'observer la propagation du coronavirus dans les groupes vaccinés faisant la fête. Les explications de l'infectiologue de l'hôpital Cochin, Liam Bin Luang avec Hélène Chevalier.
Sur les 4000 participants attendus, 2000 vont participer à la soirée et 2000 vont rester chez eux. On va demander un prélèvement salivaire le jour de l'expérimentation et une semaine après qui sera envoyé par la poste. Et à la fin, on va comparer le nombre de personnes qui ont eu la Covid dans les deux groupes et on va pouvoir estimer s'il y a un surrisque d'être contaminé par la Covid en ayant participé à la soirée. On sait que le variant Delta en fait est un peu plus résistant à la vaccination. La vaccination protège contre les formes graves mais protège moins bien contre les formes asymptomatiques ou peu symptomatiques. En plus les personnes se testent moins donc il y a encore des choses à apprendre sur l'effet du variant et de la vaccination. Par exemple en Angleterre où il n'y a vraiment plus aucune mesure, il y a une explosion des cas et on ne sait pas très bien encore est-ce que c'est dû à une faible couverture vaccinale ou c'est dû à une transmission en fait, à bas bruit du Delta dans la communauté, même parmi les vaccinés. Donc cette étude, ça permettrait de mieux comprendre quelle est la dynamique du virus dans cette population vaccinée, en huis clos.
Soirée festive et dansante également à Stockholm hier soir, mais pour le climat cette fois. En Suède, les jeunes pour le climat ont organisé plusieurs concerts. Stockholm, la ville où Greta Thunberg a lancé le mouvement, était bien sûr au centre de la fête. Et Greta Thunberg aussi, elle est montée sur scène pour dénoncer l'inaction des politiques, mais pas seulement. Et le jeune public a adoré le show. Sur place à Stockholm, Frédéric Faux.
C'était la surprise de la soirée. Greta Thunberg est montée sur scène pour chanter en duo et danser devant un public d'adolescents extatiques. Le Covid a pendant de longs mois relégué la crise climatique au second plan. Mais aujourd'hui, les restrictions sont tombées et il fallait montrer que le climat peut aussi se défendre avec enthousiasme. Le jeune public n'a pas eu que l'occasion de voir défiler toutes les stars de la chanson suédoise. Il a aussi entendu des scientifiques ou des militants, comme cette jeune Philippine venue raconter les conséquences du changement climatique sur son île. Et une fois de plus, pour conclure la fête, Greta Thunberg n'a pas mâché ses mots pour dire ce qu'elle pensait de l'inaction des politiques.
Ils savent exactement ce qu'ils sacrifient pour continuer à augmenter leur vitesse et se précipiter dans le précipice. Soyons absolument clairs, c'est maintenant un choix actif qu'ils font.
Si la prochaine grande réunion internationale sur le climat, la COP26 de Glasgow, a été évoquée plusieurs fois sur scène, les militants suédois n'en attendent pas grand-chose. Pour Greta Thunberg, le changement ne pourra venir que de la population quand elle descendra dans la rue.
Voilà un reportage à Stockholm de Frédéric Faux. Le temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Jean-Michel Golinski.
Plus bleu à l'est qu'à l'ouest, avec un soleil rayonnant cet après-midi du Grand Est à la Méditerranée, mais les grisailles vont parfois tarder à évoluer entre la plaine d'Alsace et le Val-de-Saône. Sur la frange océanique, les nuages s'amoncellent, menant vers un temps assez gris en fin de journée de la Bretagne à l'Aquitaine. Enfin, du Midi-Pyrénées en remontant vers le centre Val-de-Loire et le nord de la Seine, le voile nuageux présent laissera tout de même bien filtrer le soleil. Avec cet après-midi, 22 à 24 degrés de la Méditerranée au sud de la Garonne. Il fera nettement moins des frontières du nord à l'Alsace, entre 14 et 15 degrés de Lille à Strasbourg et 18 degrés en moyenne sont prévus sur les autres régions. Demain, dans une ambiance partout plus douce, le temps sera maussade et venté sur le quart nord-ouest. À l'avant du nord de la Seine à l'Aquitaine, le ciel va se charger en journée, tandis que plus à l'est, le soleil va résister, mais avec le matin, pas mal de brouillard et même des entrées maritimes dans le golfe du Lyon.
Jean-Michel Golinski de Météo France.